nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Les jours passent, ils ne savent presque rien l'un de l'autre. Pourtant, une tendre affection se fait entre eux. Ils parlent peu, mais se regardent, se sourient. Elle est prise par ses jolis yeux, lui par ce beau regard. Un matin, il se sent bien, plus de douleur, et lui dit « J'aimerais essayer de marcher. » Elle lui fait « C'est peut-être un peu tôt. »« Non, j'aimerais essayer. » Elle lui dit « Bien, je vais vous aider. » Alors, elle l'aide à se lever. Une fois debout, maintenu par elle, il a un peu de vertige et n'ose pas faire un pas. Elle lui dit « Attendez, je vais vous aider. » Elle le maintient. « N'ayez pas peur, je vous maintiens. » Il lui dit « Mais je suis beaucoup trop lourd pour vous. » Elle dit « Ne dites pas de bêtises, je vais bien l'amener jusqu'ici. Allez. » Il fait un pas. « Voyez que vous y arrivez. » La jambe tremble un peu. Elle est raide, mais il essaye. Il fait un pas, puis un autre. Toujours un pas, puis continue. Ça va mieux et mieux. Maintenant, il ne reste plus allongé toute la journée. On marche petit à petit. Il fait beau, soleil. Personne aux alentours. Le lac est calme. Le matin, elle prend la barque. Lui demande où elle va. Elle lui dit « Je vais faire des courses, aller à l'épicerie du village plus loin. » Elle s'éloigne. Un matin, il est resté seul. Il s'est mis à marcher un peu autour de la maison. Il marche en boitillant. Il s'est pris d'une grande tendresse pour cette jeune fille. Il voit des fleurs sauvages dans une lisière. Alors, il décide c'est d'en faire un bouquet. Il va l'attendre devant la maison avec son bouquet. Lorsqu'elle arrive, il va à elle, le bouquet à la main, et lui dit « Tenez ». Elle lui dit « Merci ». Merci mon ami. Elle est émue de ce petit jeune homme, si jeune et gentil. Alors elle lui donne un baiser sur la joue. Puis, le prend par la main et à la taille. Et ils entrent dans la maison. Quand dans la maison, il lui dit, je mets les fleurs dans un vase. Elle va chercher un vase. Elle met les fleurs dedans et lui dit « Hello !» Elle sourit et lui dit « C'est l'émotion !» Tout doucement, il la prend dans ses bras. Il caresse les cheveux, il ne bouge pas, ému. Il défait sa robe qui tombe à terre. Elle est nue. Elle prend dans ses bras, l'allonge sur le lit. Elle ne bouge pas. Se déshabille en vitesse. Et s'allonge sur elle, tout doucement. Une demi-heure plus tard, ils sont allongés. Une enlacée. Elle lui dit, tu es bien? Il lui dit, tu es ma petite fée. Elle lui fait, toi, tu es mon Merlin. Il lui dit, oh, quelle horreur, ce vieux, à la longue barbe. Elle lui fait, mais non, Merlin a tous les âges, il n'a pas d'âge. Elle lui fait, je veux toujours rester comme je suis, je veux arrêter le temps. Elle lui dit, mais tu as déjà arrêté le temps. Il lui demande, comment? Elle lui répond, tu seras toujours un bébé. Et lui dit, oui, et ton bébé, l'embrasse sur la joue. Se sent très fort, très flatté d'être contre elle. Nous resterons toujours ici. Elle lui dit, je t'ai envoûté. Tu es mon prisonnier et tu resteras toujours dans mon île. Ils sont heureux. Il reprend des forces. L'après-midi, ils vont s'allonger dans la barque. Elle est contre lui. Il laisse sa barque glisser selon son humeur au fil de l'eau. Ils se nourrissent de plantes sauvages qu'elle connaît, de fruits. Elle lui a appris à pêcher. La nuit, elle va prendre des écrevisses. De temps en temps, elle va seule chercher au village, plus loin, des choses dont ils ont besoin. Lorsqu'elle s'en va, il a peur qu'elle ne revienne pas. Ses vêtements sont en lambeaux. Et l'on voit de plus en plus de sa chair. Ça ne les gêne pas, parce qu'ils ne sont que tous les deux. Elle ne sait que lui dire. Elle est heureuse, elle aime, l'embrasse sans arrêt. L'appelle son bébé. Des fois, il lui prend une ivresse folle qui le force à courir. Il la prend par la main et court autour du lac ou à nager dans cette eau qui semble baignée de lumière. Des fois, dans la soirée, la Pélagie vient les voir. La nuit est fraîche. Mélusine a fait du feu dans la cheminée. Ils s'assoivent tous les trois à terre près du feu. Leur dit, vous êtes fous tous les deux à vivre comme ça, éternellement comme ça. Mélusine lui demande, et pourquoi? Elle lui dit, parce que on est malgré tout dans le monde, et puis tu l'oublies. Elle lui dit, je veux l'oublier. Elle lui dit, lui non. On se demande, qui est-ce? Mélusine lui dit, rien, rien du tout mon chéri, rien ne peut nous nuire. Je suis libre, nous sommes libres. La Pélagie lui dit, le temps, on ne peut pas l'arrêter. Et le temps n'est jamais en notre faveur. jours passent. François est heureux, ne pense pas à l'avenir. Pour une fois qu'il est heureux, et heureux sans rien, sans avoir besoin de quoi que ce soit. L'après-midi, qui se promène, il lui dit « Je suis très heureux. La première fois, je suis heureux comme ça. Comment te dire? Avant de te connaître, pour être heureux, il fallait que j'aie de l'argent, de beaux vêtements, vivre dans le luxe. Pour être heureux, il fallait que je me batte pour avoir tout ça. Là, je suis heureux, tout simplement. » Sans rien faire et sans rien, que toi et moi, peu besoin que je sois richement habillé, que tu aies des bijoux, que nous vivons dans un décor luxueux, belle maison, hôtel de luxe, restaurant, belle voiture. Non, là, tout est gratuit et tout est beau parce que pur et vrai. J'aime ce qui nous entoure. J'aime la vie que nous vivons. Je t'aime comme j'ai jamais aimé. Elle lui dit, mais moi aussi je t'aime. Mais ce que tu viens de me dire me fait un peu peur. Tu sembles connaître beaucoup de choses et tu risques c'est de te lancer de tout ça. Elle lui dit, oh non, jamais. Elle lui fait, ça risque de paraître bien monotone à la longue. Il lui dit, non, ne le crois pas. Je suis près de toi et rien que de te voir est un enchantement. Ce qui t'entoure, tu en fais un enchantement. Elle est heureuse et l'embrasse sur la joue. Elle lui dit, toi aussi, tu es un enchantement. Il lui dit, il ne connaît rien de moi. Elle lui fait, tu es mon bébé, et puis j'ai des yeux pour voir. Il sourit et lui dit, il est vrai que je ne te cache guère de choses. Si quelqu'un venait nous voir, je serais obligé de me cacher. Elle lui fait, j'y compte bien. Tu es mon trésor à moi et à personne d'autre. Il lui fait, je veux bien être ton trésor, mais à une condition. Les jours passent. Les jeunes gens se rendent pas compte que la saison avance. Il fait nuit plus tôt. La fraîcheur vient petit à petit. Les jours sont de plus en plus sombres et il pleut de temps en temps. Bien sûr, c'est de la pluie d'été encore, mais l'on trouve encore des fruits et de l'herbe. François, de rester, disons, nu, est moins sensible au froid qu'avant. Mélusine, qui a sa chambre en haut, malgré qu'elle dorme avec François, a disons une valise, dedans quelques vêtements d'elle, et encore heureusement qu'elle a amené quelques vestes de laine. Le soir, elle en prête une à François. Le matin, il se réveille un peu engourdi par le froid. Dehors, il y a un léger brouillard très bas sur la surface du lac. Mais le soleil en fin de matinée est chaud et fait oublier la fraîcheur du matin et le temps qui passe. François est complètement guéri. Sa blessure à la jambe ne se voit plus. Peut-être, sûrement, que dans la vie que je n'aime pas, c'est-à-dire celle qui n'est pas à moi, la vie des autres, la vie médiocre, bête, la vie réelle, quoi, celle que je fuis. Oui, donc, peut-être que dans la vie, François aurait eu une cicatrice, soignée d'une façon primaire, et puis il a eu une balle qui a troué tout de même. Mais là, moi, je ne veux pas que mon François, mon bébé, ait quelque chose qui enlaidisse son corps. Il est parfait de corps, donc pas de cicatrice. Il ne boite plus, n'a plus mal, est complètement guéri. Guéri et heureux. Ne pense plus à l'avenir, à faire fortune, à avoir un poste à la Franc-Blanc. Donc il pense à la Franc-Blanc, à tout ce qu'il a vécu, vu, entendu. Il se dit que tout ça, c'est l'enfer. La Franc-Blanc, c'est le diable. Loin d'eux, l'on est heureux. Et avec rien. Il se dit qu'il laisse aux autres la fortune, la puissance. La Franc-Blanc est maître du monde, d'un monde de terreur, de crime, de nuit, dans un décor luxueux, cache les ruines qu'ils ont faites, la misère, la peur, les peines, les crimes. Lui est roi d'un royaume de lumière, où tout est plein de vie. Il a la plus belle reine qui soit, et il a à lui seul. Cette reine ne donne pas la mort, mais la vie. Il se dit que son royaume lui a été donné par Dieu, parce que Dieu a donné la vie aux hommes comme ça. Lui est un roi de Dieu et de la lumière, de l'amour. La Franc-Blanc est un empereur du diable, de la mort, de l'enfer. Voilà à quoi il pense. Et pourquoi il ne voit plus la vie autrement que comme ça. Pour lui, le bonheur, c'est l'amour de l'homme avec ce qui l'entoure, la nature et amour. Tout ce qui vit. Faire de sa compagne son égale et la rendre heureuse dans cette union. Il se dit, un soir, allongé sur son lit de camp, moi, la nature, nous sommes unis, faisons qu'un, je suis heureux. Elle lui demande, mais si nous sommes obligés d'aller ailleurs, dans un lieu, disons, pas aussi beau, dans une ville, est-ce que tu m'aimerais toujours? Ou est-ce que tu m'aimerais moins? Est-ce que tu m'aimes qu'avec l'aide de la nature? Il lui dit, pourquoi veux-tu que l'on quitte cet endroit? Il est tellement heureux qu'il ne peut penser qu'il ne pourrait quitter ce lieu, qu'il ne pourrait vivre ailleurs. Mais sûrement que son amour pour elle est suffisamment fort pour qu'il puisse d'emmener à Paris, même à Lyon. Un matin, il fait soleil, après avoir pris leur petit déjeuner. Je vais à la pêche, il fait, ne rentre pas trop tard. Le regarde bien, mon Dieu, dans quel état tu es? Son t-shirt a un gros trou sur le devant, il monte sa poitrine. Son pantalon, sa jambe gauche est coupée, déchirée, comme un short. L'autre, derrière, montre une partie de ses fesses, pieds nus. Il ne fait pas laid et pouilleux, non. Il ressemble plutôt à un jeune dieu. Avec son charme, son élégance naturelle, il ressemble à un jeune dieu. À Paris, un SDF en loque comme lui aurait ressemblé à un jeune malheureux, sale et triste. Là, il ressemble à un dieu. Et François, même à Paris, ressemblait à un dieu. Il sourit, il lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, rien, tu es très beau. Fais attention à ce qu'on ne te voie pas. Il lui dit, à part les cerfs, les sangliers, les oiseaux. Et il la quitte. Elle est heureuse. Pendant qu'il est à la pêche, elle fait un peu de ménage dans cette maison. Cette maison qui ressemble à une ruine où la nature a pris dessus. De l'herbe folle pousse même à l'intérieur. Des ronces, des arbustes se collent et font des trous. Tout ça mélangé à la pierre et à la terre. La nature a pris le dessus et c'est devenu quelque chose de très beau. Comme de ces maisons en ruine que l'on voit dans les tableaux du 18e siècle, à l'époque gothique, où les gens fortunés faisaient construire de fausses ruines dans les jardins ou même des maisons. En faux vieux, avec de vieilles pierres et du marbre, plein de recoins, où la nature venait s'y poser, où la nature et l'édifice se mélangeaient et donnaient un côté étrangement beau. Le gothique, qui est devenu plus tard le gore, le gothique est une idée au retour à l'ancien, à la nature, de Jean-Jacques Rousseau à la Révolution française. Le gothique, c'est aimer les ombres, les vieilles ruines et les endroits que l'on ne voit pas bien, où l'on peut imaginer des choses que l'on ne voit pas bien ou pas. Comme derrière une porte, il peut y avoir des aurores, etc. Mais le tout mélangé avec la nature. Donc, la maison, le décor où ils habitent, est un décor gothique, parce que la maison est mariée avec la nature. Et l'usine débarrasse la table. La porte qui s'est ouverte brusquement. Oh! Un homme est devant elle. Il est grand, maigre, les cheveux blancs longs, il porte une capeline noire. Il a à la main un bâton. Elle lui crie « Non !» Il lui dit « Belzile, je t'en prie. » Il s'approche d'elle. Elle recule. Il lui dit « Je suis venu te reprendre. » Elle lui fait « Non !» Il le faut. Il faut que tu rentres. Non, je ne veux plus. Il le faut. Je te dis. Elle se cache le visage dans ses mains. Il lui dit, je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus vivre comme avant. Il lui fait, il le faut. Tu m'as été donné par ta mère. Mais non. Je ne veux pas. C'est un crime de me faire vivre comme ça. Il lui dit, et là, ce n'est pas un crime. Il lui fait, je ne fais rien de mal. Si tu fais du mal, parce que tu n'es pas où tu devrais être. Il regarde bien, il lui dit, tu devrais avoir honte de t'habiller comme une souillon. Elle lui dit, j'avais pu le faire, je me serais recouverte comme peau d'âne. Nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.